Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Time Sport sur Beurre FM. Les embouteillages parisiens ont eu raison de ce début, mais nous sommes là, nous sommes en place avec les consultants et les invités ce soir. On enchaîne tout de suite parce qu'on n'a pas le temps avec Fala qui était avec nous ce soir. Comment ça va, Fala?
Ouais, ça va nickel comme d'hab. Tu connais, c'est le vendredi, c'est le week-end.
Ouais, pas évident. Alison également.
Aujourd'hui, c'est compliqué dans les rues de Paris, les transports, tout ça.
Ouais, on a pas eu de chance, mais bon, on est présent ce soir. Alison, par contre, toujours en place. Comment ça va, Alison?
Bonsoir à tous. Ben, ça va très bien. Quelques petits soucis, malheureusement. Le trafic parisien ne nous aide pas, hein, on va le dire, même si ça ne change pas grand-chose de d'habitude. Mais voilà, on est là et c'est ce qui compte.
Et puis notre invité du soir, Benjamin Fontes, est avec nous. Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Ouais. Ouais, bah, écoute, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir pour la première fois dans notre émission de Time Sport.
Tout à fait. C'est une première pour moi dans la radio aussi, donc... Un plaisir.
Ça va bien se passer. On parlera notamment du Racing Club de Lens. Est-ce que le club du Nord, sur la bonne dynamique, peut prétendre, à la seconde place? On reviendra sur l'écologie et son football. Et puis on terminera avec le coach Mancunia qui dégomme tout le monde.
Time Sport. Il est pour parler.
La première, le Racing Club de Lens en vogue depuis trois saisons. Alors c'est vrai que depuis un moment on se disait, est-ce que Lens est une surprise? Lens est régulier? Lens peut-il prétendre à la seconde place, Alison Fala?
En tout cas je l'espère, hein, parce que cette année Lens fait un parcours quasi parfait, à l'exception du derby qu'ils se sont vus perdre malheureusement, mais on voit une équipe de Lens solide, tu l'as dit Claude, depuis bien trois saisons. Alors moi l'année dernière je me targuais en disant que oui, Lens est une équipe magnifique, que Lens est solide sur toutes les lignes, que Lens en attaque c'était magnifique avec Fofana, et puis malheureusement ça s'est écroulé l'année dernière et ça a fini même pas dans les cinq premières places, ce qui m'a fortement étonnée. Mais cette année, j'y crois encore une fois. Je suis une fervente amoureuse aussi du Racing Club de Lens. Je les trouve un petit peu plus solides et encore un petit peu plus cohérents que l'année dernière. Alors oui, il y a eu des pertes, notamment là, il y a quelques semaines, Gaël Kakuta qui a signé dans son club d'Amiens.
Qui est revenu à Amiens.
Donc il est reparti à Amiens, ça reste quand même une perte, quand même une grosse perte, hein, qu'on le dise, même si effectivement l'année dernière il était gêné par des blessures et qu'il ne jouait pas beaucoup, mais ça reste une perte. Mais cette année, je pense que Lens finira derrière Marseille.
Je rappelle le Racing Club de Lens, voilà, deuxième du classement, à égalité avec Lorient derrière l'intouchable Paris Saint-Germain.
Ouais, après, Lens, comme tu as dit, ça fait trois saisons où c'est correct ce qu'ils font en Ligue 1. Surtout au niveau du coach, j'ai vraiment envie de souligner le travail du coach, de Franck Hayes. Franchement, c'est incroyable. Et avec peu de moyens par rapport aux autres concurrents directs en Ligue 1, voir comment il arrive à mettre cette alchimie, à concentré à mettre tout le monde focus dans la même direction. Franchement, c'est incroyable. Après, Lens, ça travaille pas depuis trois ans. Ça travaille depuis, si ça fait pas dix ans que l'ancien président Gervais Martel a essayé, on a pu voir. Il y a eu pas mal d'investisseurs qui étaient venus, l'investisseur d'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, c'est
ça remonte fort pour un club qui revient.
C'est ça. Mais en fait, parce qu'ils travaillent, c'est cohérence qu'ils font dans le travail. Ils ont mis l'accent sur la formation, ils ont mis l'accent sur l'équipe première.
La cohérence de la passion, on se retrouve juste après la pub.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
On est de retour pour la seconde partie de Time Sport sur Beurre FM avec ce soir Alison Fala qui sont avec moi, sans oublier notre invité, Benjamin. Alors, est-ce qu'on dit Fontes ou Fontes? Je pensais trop aux joueurs portugais du Lost Frontes.
Pourtant, c'est portugais. Hein.
Pourtant, c'est portugais.
C'est portugais.
Ok, donc responsable du football écologie de France, c'est ça.
Responsable de l'antenne parisienne.
D'accord.
Voilà. Je présente un peu l'asso.
Rapidement, on y reviendra.
Ok, donc en fait, on est une association d'intérêt général à but non lucratif et on accompagne le monde du football dans sa transition écologique. Plus précisément les clubs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, et aussi les districts, les ligues et les collectivités qui du coup travaillent avec les clubs.
Ok, on y reviendra juste après, l'écologie et le football. On revient sur le premier sujet, le Racing Club de Lens. On y croit ou pas, Fala?
Ouais, moi j'y crois. De toute façon, moi je suis un amoureux de Lens.
Il copie sur moi, tu vois, Claude?
Non, dis la même chose. On copie pas, nous, on a notre propre personnalité. Les gens, ils savent déjà, on copie personne. Non, mais parce que Lens, ça fait partie de l'histoire du football français. Ça a marqué des histoires pour certains dans les années 90, 80, un petit peu dans le début des années 2000. Après, c'est vrai que ça a été compliqué pour Lens. Mais on se rappelle de ce titre de champion de France en 98 où.
Grosse équipe, hein.
Ouais, très, très, très grosse équipe avec les Tony Vérel et toute la clique. C'était Jean-Guy Wallem. Franchement, les Koulibaly, c'était. Franchement,
Lens. Guillaume Varmuz.
Ouais, Romiac. Voilà, c'est ça. À l'époque, Lens, c'était le club, si tu étais footballeur, avec Auxerre, Nantes. C'était les trois clubs où il fallait aller absolument. À l'époque, il n'y avait pas 36 000 clubs. Tu avais d'autres clubs. Il y avait Strasbourg aussi. C'est vrai, Strasbourg, Lens, Nantes, c'était les vrais Auxerre.
En dehors de Paris, Marseille, Monaco qui étaient en vogue.
Non, c'est même pas parce qu'à l'époque, je veux pas. Le Paris Saint-Germain, à l'époque, ça se faisait pas. Ils prenaient pas des. Il fallait vraiment, si tu arrivais à rentrer au Paris Saint-Germain, c'était vraiment que t'étais un talentueux. Le premier qui a réussi à sortir du Paris Saint-Germain en centre de formation, c'est comme Nicolas Anelka, en 97. À partir de là, ça a mis la première pierre à l'édifice. Et après, bon, ils ont compris. Mais je veux dire, pour en revenir à Lens, ça me fait super plaisir et ils vont se battre jusqu'au bout. Hein. Et moi, je les vois bien tenir jusqu'au bout. Parce qu'au vu de ce qu'on voit avec Marseille, moi, de toute façon, Marseille, je ne me fais aucune illusion. Je pense qu'ils vont laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de plumes avec la Coupe d'Europe. Donc, je pense que ça va leur coûter cher en championnat. On le voit bien déjà. Et ils sont déjà 5e, 6e. Ils commencent déjà à avoir un petit trou. Si ce week-end ils gagnent pas, ce soir déjà, ça va être compliqué. On va commencer de parler de mini-crise en championnat du côté de l'Olympique de Marseille. Alors que Lens.
Éliminé aussi de la Ligue des Champions, ça peut.
Bah, pas Ligue des Champions, parce qu'on va parler budgétaire. Parce que c'est vrai que si Marseille arrive à aller en 8e.
C'est parti loin, parce que quand on a vu. Enfin là, on dévie un petit peu.
Non, parce qu'ils peuvent se rattraper avec l'Europa League. S'ils finissent en Europa League, ça sera pas une perte.
Quand on a vu quand même le groupe de Marseille, on s'est dit ouf. S'il y a une possibilité que Marseille sorte du groupe. On a dit, bon, allez, l'ogre, c'est Tottenham. Peut-être qu'on pourra faire deuxième. Et là, quand on voit que Marseille bataille un petit peu, on a quand même quelques regrets qu'on puisse basculer en Ligue Europa, alors que on disait a priori que c'était le groupe le plus apportable de cette Ligue des Champions, en tout cas pour Marseille. Mais juste pour en revenir à Lens, c'est
là qu'on voit... Parlons Lensois un petit peu. Ils écoutent dans le Nord.
Parlons de l'Africadelle et tout ce qui s'ensuit. Juste, c'est là où on voit la force et le mental d'un grand club, et l'histoire aussi d'un grand club. Généralement, en Ligue 1, quand un club remonte de Ligue 2, généralement, ça joue le maintien. Ça joue le maintien, ou alors quand ça fait une très bonne saison, c'est dans le ventre mou, un peu dans la deuxième partie de classement. Et là, on voit que depuis que Lens est revenu en Ligue 1, bah, finalement, ça joue les premières places. On l'a dit, il y a trois saisons, ça a bataillé, et on y croyait aussi au podium. L'année dernière, on y croyait encore plus, et cette année, c'est encore plus solide. Ça peut jouer le podium, voire même une Coupe d'Europe. Et c'est là, justement, où Jean Fala, où on voit les grands clubs, l'histoire et la force des grands clubs français.
La question, c'est de savoir, Fala, est-ce que sur la durée, Lens va pouvoir tenir la cadence?
Sur la saison, je pense qu'ils peuvent l'avenir jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'il y a toutes les armes, il y a tout ce qu'il faut pour que ce club arrive à se maintenir dans les 3-4 premiers. Si on parle après dans un futur proche, très très proche, parce qu'on arrive bientôt en 2023 et après la Coupe du Monde, ça va aller vite. Je pense qu'il faudra mettre des moyens. Je pense qu'il faudra mettre un petit peu d'argent, acheter quelques joueurs, pas chambouler tout, parce qu'on voit bien quand une équipe chamboule 5-6 joueurs à l'intersaison, ça peut être compliqué pour le coach de remettre une osmose dans le groupe, remettre une philosophie. Alors que si tu ajustes, tu ramènes un, deux joueurs, tu peux encore gagner deux fois plus. Maintenant, je vais revenir sur ce que Alisson a dit. Non, Lens, l'histoire fait parler. Je pense que les gens là dans le club ont bien imprégné les joueurs, intégré dedans. Je pense qu'ils ont très bien compris le pas le poids, mais il y a quand même un poids à Lens. C'est quand même Lens, c'est quand même le club.
Mais quand t'arrives déjà au stade, ouais, bah tu comprends qu'il y a un poids.
Bah oui, c'est
avec
ça.
L'ambiance,
ouais, c'est ça.
Avec les supporters, on avait la mamie dont j'oublie le nom, qui était la plus ancienne supportrice du RC Lens. Enfin, tu comprends que ça a une grande histoire et que c'est un grand impact, et que finalement, quand tu mets le maillot de Lens, tu ne mets pas n'importe quel maillot en France. Il y a un poids quand même.
Après, faut rester aussi prudent, très très prudent, parce que le football, ça va très vite, on l'a encore vu. On parlait de Marseille. Bon, c'est pas le sujet, mais je vais revenir sur ce qu'a dit Alisson. Quand elle disait que le club Marseille avait tiré un groupe plus ou moins abordable. Moi, j'ai dit attention, je l'avais dit, attention, faut pas croire que c'est... Tottenham, c'est largement au-dessus. Après, c'est vrai que cette saison, ils sont un peu malades. Sporting, il reste le champion en titre du Portugal. Et Francfort, alors là, c'est là que je préfère...
La gagnant de la Ligue Europa, Francfort.
Qu'on a descendu, bah pas descendu, mais qu'on a négligé un peu, comme si c'était, c'était abordable. Mais Francfort, au match aller, ils ont fait fort impression au Vélodrome. Et au match retour, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Les surprises, il n'y a pas de certitude dans le football. Alors, on reste sur des bases où, oui, plus ou moins, il y a telle et telle équipe qui sont toujours dans le dernier carré, mais il ne faut jamais enterrer une équipe.
Mais quand on a vu le parcours et le début de Ligue 1 de Marseille, quand
c'est
même,
ça, justement,
voilà, on a vu un très bon début de championnat de Marseille. Donc, quand finalement Marseille a tiré ce groupe, on se disait quand même, comme tu dis, effectivement, Francfort, c'est le gagnant de la Ligue Europa. Francfort a éliminé de telle manière 3-0 au Camp Nou. Francfort a éliminé le FC Barcelone et a été chercher cette Ligue Europa. Mais on se disait quand même que voilà, sur tous les groupes, on pouvait mettre Tottenham au-dessus et les autres, on pouvait faire des résultats qui nous permettraient, en tout cas qui permettraient aux Marseillais d'aller chercher une deuxième place. Et au final, effectivement, je te rejoins, c'est pas si évident que ça. Tottenham,
ça,
on les mettait au-dessus, mais finalement, je trouve que c'est mi figue mi raisin. Je trouve que Francfort, c'est au-dessus de Tottenham. Mais voilà, on se disait quand même qu'il y a de la place et que pour une fois déjà, Marseille ne partirait pas avec 0 points et 0 but, comme ils l'ont fait les précédentes éditions. Et que voilà, on pourrait gratter un petit peu plus que une troisième place et basculer vers une Ligue Europa. Je pense que quand on regarde tous les groupes de Champions League, c'est quand même, à mon sens, le groupe qui permettait à Marseille de faire mieux que ce qu'ils ont fait maintenant.
Ouais, mais ça, c'est le, j'ai envie de dire, c'est la façade extérieure. C'est la façade, oui. Mais moi, personnellement, j'ai jamais dit que ça allait être un groupe facile pour l'OM.
Non, c'est pas un groupe facile, mais c'est le groupe le plus abordable
pas
éventuellement
pour
Marseille.
À une journée de la fin, Marseille 6 points dernier, mais le Sporting est...
Bah, tout le monde peut se qualifier.
Voilà, c'est ça.
Et Tottenham 8 points. Donc
tout le monde
c'est
peut
un
se qualifier.
Groupe,
voilà, c'est pas
finalement,
un groupe facile,
c'est quasiment le groupe...
C'est pas le groupe facile.
Bah, c'est le groupe le plus serré. Mais c'est,
bah donc, au final, à la finalité, quand on prend la chose, c'est pas le groupe le plus facile pour l'Olympique de Marseille.
Non, mais il y a une différence entre facile et abordable. On n'a pas dit que c'était un groupe. C'est un groupe facile.
Oui.
On a dit que pour Marseille, au vu du début de saison de Marseille, c'était le groupe le plus abordable.
Mais faut pas confondre le début. En fait, c'est ça, je crois. Faut pas confondre ce que Marseille a fait en championnat. On voit bien, ils sont en train de s'écrouler tout doucement.
Oui, mais ça donne quand même une dynamique pour la Ligue des Champions.
Bah, la preuve que non, parce qu'au final, ce qui se passe en championnat, ça se répercute automatiquement en Ligue des Champions. Et on l'a bien vu, dès que Marseille a commencé à perdre, c'est... parce que là, je crois qu'ils sont sur 3 défaites d'affilée, Marseille.
Ça devient compliqué pour Marseille, mais revenons au Racing Club de Lens. Vous êtes complètement dévié.
Non, mais c'est vrai, c'est ce que
c'est vrai. La Coupe d'Europe à Lens, tiens. Fix Bollard, en ébullition.
Bah, c'est
voilà.
Ça, en fait.
C'est ça qu'on veut voir.
Moi, c'est ça, en fait. Voilà, tu viens de soulever une très bonne question et j'ai envie de revoir les ambiances européennes à Bollard. Parce que moi,
on veut revoir des FC Lens Arsenal.
J'ai des images de matchs à l'ancienne de Lens en Coupe d'Europe.
La folie.
C'était la folie. J'ai pour l'ambiance, en fait. Et j'ai toujours dit, ce stade, c'est un stade que j'ai pas encore mis les pieds. Pourtant, j'en ai 38 ans.
Ah bah, tu devrais. C'est la folie.
Et j'attends toujours d'aller dans ce stade-là, comme à Geoffroy Guichard.
Moi, j'ai une anecdote sur le club du RC Lens. Ma mère, qui aime bien le football, mais qui n'est pas non plus une aficionado du football, n'était jamais allée à Lens. Et du coup, on a été au match et elle dit waouh, finalement, le football, je reconnais que ça transmet des émotions.
Ben c'est quand tu...
Parce que ce stade est incroyable. Donc, c'est pour vous dire que même une personne qui n'est pas amoureuse à la base de football, quand on va à Bollard, ça nous transmet des émotions et on a les frissons complets.
C'est clair.
Allez, Lensois, allez, un peu de pub de musique, on se retrouve juste après.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce vendredi 28 octobre. Oui, Fala, ça le fait sourire avec Alison, on ne sait pas où il est. Kamel, Presidente, il n'a pas pu arriver justement. Eh ben oui, Claude Tollet. Moi, j'ai été perdu dans le périphérique parisien. Eh oui, il n'y a plus d'essence, il y a de l'essence. Ah ben non, mais non, on a fait patienter Benjamin Fontes, justement. Benjamin.
Il boit de l'essence.
Non, Fontes. Il est avec nous justement pour la première fois.
Fonte,
excusez-moi. Fontes ou Fonte?
Fontes.
Fontes. Voilà. Edmond Dantès. C'est ça. Voilà. On avait toujours dit.
Fonte, hein.
Oui, Fonte, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas la Fonte. Voilà. Et oui, il a l'habitude de ça justement. On abordait le cas de Lens, les 100 et or, puis clin d'œil à Giovanni. Et on va justement s'attarder sur l'invité de ce soir. Allez, on y va.
Time Sport. The Special One, The Special One.
Eh oui, justement, il y a pas mal de choses à dire concernant notre invité ce soir. Hein. On a vu cela à travers la planète, il y a pas mal de choses concernant cette... C'est une première, justement, c'est... Comment dirais-je? Ça sera la sixième édition de ce fameux voyage du ballon. Le ballon de quoi? Le ballon de cette fameuse Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar. On parle aussi avec vous, justement, France Écologie Football. Vraiment de ce qu'il advient. On a vu que dernièrement, vous étiez quand même passé sur pas mal de chez nos confrères. Mais aujourd'hui, avec cette sixième édition, on a vu que le ballon était, je crois, en Amsud, en Allemagne. Il faut nous expliquer tout cela. Et aussi, l'objet de votre venue ici, sur l'antenne de Beurre FM. Allez-y, parce qu'on est friand. On parle beaucoup du mondial, on parle beaucoup de diversité, on parle beaucoup de biodiversité, on parle beaucoup aussi de l'écologie. Mais qu'en est-il, justement? Et pourquoi vous, avec le football? Le vecteur, c'est quoi? Alors, Benjamin?
Alors, pour commencer...
Benjamin, j'ai l'impression de l'avoir réveillé, là.
Ouais, Benjamin. Ouais,
le code Tollet, pourtant, il est assez efficace, le code Tollet. Hein?
Du coup, pour présenter un peu l'événement qu'on avait avec le ballon, donc il s'appelle One Ball, One World. En fait, c'est une association allemande qui s'appelle Spirit of Football qui a créé ce projet. Et l'objectif, c'est de déplacer en fait, ce ballon un peu partout dans le monde à l'image de la flamme olympique. En amont d'une grande compétition footballistique qu'est la Coupe du Monde. Et ils font ça donc depuis plusieurs éditions maintenant. Et pour la première fois, ils se sont un peu, on va dire, désolidarisés du Mondial au Qatar. Et le ballon arrivera donc en 2023 pour la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande et en Australie.
À peu près 50 000 signatures justement. Concernant.
Sur celui-là, il y en a 3000 pour l'instant.
3000.
Ouais.
Ouais.
Mais donc,
la dernière édition.
Le ballon ira jusque là-bas. Alors, je ne sais pas combien il y en avait pour la dernière édition.
Ouais.
Mais en gros, nous, on n'est pas les porteurs du projet. C'est l'association Spirit of Football. Mais nous, on les accueillait en France.
Okay.
Le ballon est passé par Lyon. Où on a eu notre première antenne, en fait. L'asso a été créé à Lyon, l'asso Football Écologie France. Et il est venu ensuite à Paris pour deux jours.
Cet après-midi?
Alors, il est arrivé hier midi.
Ouais.
On a fait une petite intervention dans un centre de loisirs à Saint-Ouen.
Ouais.
Okay.
Une petite visite du stade du Red Star, du stade Bauer.
Ouais, on l'avait reçu sur l'antenne de Beurre FM.
Et ensuite, ce matin, on l'a fait signer donc par le Red Star et Steve Marley. Et une élue aussi de la mairie de Saint-Ouen à la jeunesse. Et après nous aussi on avait l'association Graines de Footballeuses qui était présente.
Ouais.
Et donc nous l'association Football Écologie France avec Spirit of Football et on était accueillis à la Cité Fertile à Pantin.
Okay. Justement,
Ouais, Alison, une réaction. Parce que nous, on aimerait revenir aussi sur leur association.
J'ai énormément de questions pour toi, Benjamin. Là, ça fuse depuis tout à l'heure dans ma tête. Mais concrètement, quel est le projet et l'inclusion et la place qu'on veut faire prendre quelle est la place finalement de l'écologie dans le football actuel?
Bah, le football est un levier très important. En fait, on a pour habitude de dire que c'est un peu le troisième lieu d'éducation en France de manière générale, après la famille et l'école, en fait. Tellement de pratiquants de football ce qui fait que en fait il a un énorme rôle pédagogique à jouer et d'éducation. Évidemment, l'écologie doit nous, c'est notre rôle en fait d'arriver à l'amener dans les clubs et les districts, les collectivités partout.
Franchement, c'est lourd.
Par quel moyen, Benjamin?
C'est lourd.
On a un premier outil qui s'appelle la fresque écologique du football qu'on a créé en fait au début de l'association, qui est un outil d'activation et de sensibilisation. Donc dans un premier temps, il nous sert un peu à sensibiliser les clubs sur les enjeux qui peuvent être les leurs. Donc l'objectif, c'est d'arriver à comprendre dans leur structure à eux, quels sont leurs postes, par exemple, où il y a des émissions de carbone, par exemple, ou sur quels endroits ils peuvent s'améliorer et avoir un meilleur impact sur l'environnement. Ça peut être la buvette, ça peut être sur les équipements, ça peut être sur les terrains. Et c'est dans ces moments-là, par exemple, que la mairie entre en jeu, les collectivités. Ouais. Et nous, on les accompagne sur tous ces sujets-là. Et donc, la fresque, c'est un petit jeu ludique et participatif qu'on met en place donc avec les adultes ou les enfants. L'intérêt de le faire avec les enfants, donc c'est plus pour la partie sensibilisation. Et avec les adultes, notamment avec les dirigeants du club, c'est justement pour arriver à leur faire comprendre tout ce qu'eux peuvent mettre en place dans leur club pour arriver à être plus écologique.
Benjamin Fontas est chargé justement de développement sur l'Île-de-France chez Football Écologie France. On le rappelle, hein, le site internet peut-être pour vous suivre aussi sur les réseaux sociaux.
www.football-écologie.fr.
Alors justement, c'est bien beau, on est là pour l'écologie. Attends, on a l'invité avec nous là. N'inquiète pas, moi j'en ai pas mal de questions. On est à l'approche de ce Paris 2024, Benjamin. Justement, comment est le retour que vous avez, vous, au sein même de cette association, avec le gouvernement, avec peut-être cette ville qui est la ville de Paris, mais à travers le pays aussi? Comment voyez-vous la chose concrètement? Est-ce que les gens que vous avez en face de vous sont assez réceptifs du message que vous portez à travers ces jeunes, à travers les gens qui entourent ces jeunes, à travers même les parents et tout ce qui est cette sphère, quoi. Est-ce qu'on est assez réceptif ou pas? C'est comme par exemple quand on nous parle de Paris 2024, de ses préparations, de ces fameux chantiers titanesques en région parisienne et que des fois voilà, on bafouille un peu les principes fondamentaux, si je peux me permettre. Vous?
Alors nous, on est lauréat de l'appel à projet Impact 2024, qui est le fonds de dotation du coup des JO, qui fait que du coup on a une subvention pour pouvoir déployer notre fresque partout, du coup notamment à Paris. Et c'est pour ça qu'on arrive à même en mettre en place auprès de clubs qui souhaitent devenir adhérents et à leur en offrir deux en fait, les deux premières fresques. Donc, je lance un peu un appel à tous les clubs d'Île-de-France qui nous écoutent et même ailleurs. Hein, mais n'hésitez pas, du coup, parce que j'avoue que je le dis comme ça en pensant que c'est l'Île-de-France qui m'écoute, mais pas forcément.
Mais non,
toute la France.
On les met à travers le pays.
Mais voilà, donc on développe ça auprès de tous les clubs qui souhaitent avoir un meilleur impact. Et on cherche aussi des bénévoles. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on a lancé une consultation nationale en 2022 pour faire un peu un appel et sonder un peu la vie du monde du foot et au-delà sur, en gros, les liens entre écologie et football. La consultation nationale est disponible sur notre site. Donc ça, c'est pareil. Le but, c'est d'avoir un maximum de données à traiter, à avoir l'avis d'un maximum de personnes. N'hésitez pas à aller remplir cette consultation, ça prend 10 minutes maximum et elle est disponible jusqu'au lancement de la Coupe du Monde
sur le site.
Et en fait, sur notre site
football-du-milieu-écologie.
Vous tapez football écologie France sur Google, vous l'aurez tout de suite. et sur ou ailleurs et donc c'est la deuxième qu'on met en place. On en avait déjà fait une première en 2020, voilà, qui avait été très intéressante, pas mal de leçons à retenir sur ce lien justement entre écologie et football. Et l'objectif avec ça, c'est avant cette Coupe du Monde qui fait déjà parler, j'ai pas besoin d'en dire plus, mais d'avoir l'avis des gens.
Ouais, voilà. L'avis des gens, peut-être un peu trop tardive, hein, cet avis des gens. Allez, je vous titille un peu. Ce soir. Non, mais vraiment, je suis assez sérieux. Je suis assez sérieux, vraiment. Peut-être un peu assez tardif, cet avis des gens, ce retour un peu. On a le Qatar qui est là depuis un petit moment, qui investit pas mal sur le football français, qui investit pas mal aussi sur l'économie française, si je peux me permettre. Clair. Non, c'est vrai. Peut-être on se réveille un peu. Oui, c'est un peu trop tard. On a vu les JO aussi de Pékin, 2008. Ouais. On a vu aussi Rio, 2014, c'est passé crème un peu. On peut le voir comme ça quand même. Et nous, chez nous, on est assez fous quand même, français, des fois. Non ? T'en pensais quoi ? Non, mais je suis sérieux. On investit pas mal dans notre pays et on clash le pays qui investit pas mal chez nous. C'est vrai ? Des fois, ça peut être vu comme ça, de la part de nos confrères, en tout cas, anglo-saxons ou quoi. C'est vrai qu'on c'est vu comme ça.
Mais c'est vraiment comme ça. En fait, j'ai envie de te dire, voilà. C'est typique français.
Ouais.
C'est typique français.
Alors,
on prend, mais on critique.
Ouais.
On prend ce qui va faire tourner l'économie, mais on va pas hésiter à leur taper dessus parce que bah là on voit bien cette Coupe du Monde. Pour moi cette Coupe du Monde c'est hypocrite ce qui se passe autour du Qatar.
Ouais.
Leur taper dessus alors qu'il va avoir les JO 2024 qui vont arriver et je vous dis une fois que la Coupe du Monde va se terminer au Qatar, on va vite passer aux JO 2024 et je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir.
Allez, Alison, on t'écoute, Alison.
Justement, Benjamin, je t'entendais dire et parler de la Coupe.
Attention, c'est pas Benjamin qui a mis en place la Coupe du Monde au Qatar. Il n'a rien à voir, hein, on le rappelle.
Pas du tout. Du boycott
en football écologie, Benjamin.
De la Coupe du Monde au Qatar pour des raisons, voilà, on sait que ça va énormément polluer, qu'ils sont en train de faire des stades très très vite en ne respectant pas forcément des données écologiques, entre autres. Mais est-ce que pour les prochains JO 2024, toi, via ton association ou tes homologues qui justement se réunissent pour la même cause, est-ce que vous mettez en place des choses, des process, des choses tout simplement pour que écologiquement on respecte un peu plus que ce qui se passe, ce qui va se passer dans moins d'un mois au Qatar.
Alors nous on travaille pas directement pour les JO 2024 de Paris, donc
on met quand même un peu la pression.
Donc, ouais. Non, mais on n'est pas une organisation militante, on fait pas de pression sur qui que ce soit. On fait un travail de terrain, donc on accompagne les clubs qui veulent agir. On va chercher des clubs qui n'agissent pas forcément et à qui on propose justement de passer à l'action. Mais on met pas de pression sur qui que ce soit. Après, je veux dire, les questions sur la Coupe du Monde au Qatar, tout ce qui est autour des transports, la construction des stades, au niveau pollution, on sait déjà ce que c'est. Donc, il y a pas la question ne se pose plus vraiment sur la logique. La question ce serait plus
d'accord avec Benjamin, ouais.
Mettre en place un vrai cahier des charges sur l'attribution de ces compétitions là et malheureusement aller dans des pays où il n'y a pas de stade de construit et où la question météorologique entre en compte en l'occurrence sous un soleil un peu trop important, évidemment c'est compliqué.
Vrai.
Et ce qui se passe avec l'attribution des JO d'hiver, je crois à l'Arabie.
C'est vrai, c'est aussi.
Ça. Ouais, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
En 2029.
Ouais. Ça paraît fou.
C'est clair.
Et puis même la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique,
bien sûr.
Et au Canada, voilà, où il y aura des changements de pays avec des écarts
très
de kilomètres monstrueux, ce sera pas mieux. Ce sera pas mieux. Et il n'y a pas de modèle, en fait.
Ouais. On le rappelle, hein, sur le site Football Écologie France, la consultation nationale sur le football et la transition écologique. C'est bien ça, hein.
Exactement.
Voilà, on rappelle le site internet aussi, Benjamin.
Juste taper Football Écologie France sur internet.
On arrive directement.
Je ne saurais pas dire si c'est double.
Alors le coach de Tolé, peut-être. Avec voilà. Oui, une réaction. Et pas mal, Benjamin, ce soir avec nous.
Il est incroyable.
Ouais. Moi, on le titille, mais c'est pas bien.
Moi, je valide déjà.
Il valide déjà.
Je valide déjà.
C'est un projet très intéressant.
Le coach Tolé, alors. On t'écoute, le coach Tolé.
Projet intéressant, important aussi. Après, on parle de JO, de Coupe du Monde. l'a dit, il y a une hypocrisie monstre, bah, mais en même temps, il y a tellement d'intérêts financiers. Enfin, c'est
le bon business.
C'est vraiment compliqué. Le même le cahier des charges, j'ai envie d'y croire, mais j'ai.
C'est compliqué.
Ça serait bien, si ça, déjà, dans un premier temps, d'établir un cahier des charges.
C'est vraiment bien.
Je pense que c'est une très bonne étape. Mais personne l'aurait, hein, dans ce cas-là. Personne n'aurait de grands événements.
Sinon, tu fais un événement dans un seul stade, Benjamin. Non,
ouais, c'est ça.
Ouais. Pas dans un seul stade, mais.
Quelle serait, par exemple, peut-être une organisation idéale?
Écolo.
Bah, déjà, il faudrait arriver à ce que ce soit géographiquement toutes les villes un peu plus rapprochées, dans un seul et même pays, idéalement.
Ouais.
C'est ce qui se faisait déjà avant.
Ouais, avant. À l'ancienne, c'était mieux.
Le nombre de supporters qui est déplacé, malheureusement aussi, c'est forcément énormément d'émissions, parce que beaucoup de trajets en avion.
Ouais, c'est clair. Émissions de CO2, ouais, c'est clair.
Et puis, déjà, ça changerait pas mal de choses. On peut aussi penser, en fait, à la FIFA qui prend un peu des décisions inverses à ces décisions-là, en, par exemple, créant une nouvelle Coupe du Monde à 48 au lieu de 32 pays. Qui va déplacer encore plus de monde. Donc
ça va être pire dans les
pas années. Forcément dans le bon sens, mais voilà, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et après, on parle de ces gros événements, mais notre travail à nous de prise de conscience, il est aussi important sur le football amateur. Parce que on parle beaucoup des grands,
que des stars. Faut pas oublier le football amateur, c'est vrai.
Mais on a besoin d'eux, on a besoin de soutien de gens importants, parce qu'ils sont écoutés par tellement de gens qu'une fois que le football professionnel aura suivi, et des gens du football qui sont suivis par plein d'enfants.
Aussi.
Des grandes stars, hein, quand même.
Alors, par exemple. Fala et Alisson, des réactions. Avec Benjamin.
C'est pas une question que je vais lui poser, mais je vais valider son projet. Tout simplement déjà parce qu'il parle.
C'est vraiment intéressant.
Et moi, je défends le football amateur parce que je trouve qu'on lui tape beaucoup sur les doigts au football amateur, et que sans le foot amateur, de toute façon, il n'y aura pas de foot professionnel. Et associer le sport et l'écologie, je pense que ça peut faire un très beau mariage. Ça peut prendre conscience. Une fois de plus, reprendre conscience aux gens que, comme tu as expliqué, il faudrait peut-être trouver des moyens pour organiser des événements avec peut-être moins de trajets, mais moins de déplacements, moins de transports. Ou alors sinon, carrément, il faut commencer à réfléchir à des avions écolos. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'absorbe tes paroles depuis tout à l'heure, et je valide à 2000%. Surtout le délire du ballon qui tourne comme la flamme olympique.
C'est ça que j'ai retenu. C'est mortel, c'est pour ça qu'il est venu ce soir pour en parler.
Franchement, c'est dommage que ça prend pas plus d'ampleur, parce que ça pourrait faire un truc
On est là justement pour en parler. Ça pourrait être l'image de football écologie France.
Du monde.
De Benjamin Fontes.
Le ballon, il tourne comme la flamme olympique. Et franchement, ça, je trouve que ça, c'est mortel.
Du coup, pour revenir à ce ballon, l'objectif.
Vous faites en rêver le ballon.
L'objectif que, en fait, quand on l'a, c'est de. Donc, comme il disait, de prendre des engagements. Donc, on le fait passer, on fait une petite photo, vidéo où on crie tous One Ball, One World. Et en fait, on signe le ballon. Juste après l'avoir signé, on prend un engagement écologique. Ça peut être. Ça dépend de. Les activités de chacun, mais Steve Marley aujourd'hui parlait
du
fait d'avoir vendu sa voiture et de faire plus de vélo, ce qui est super intéressant. Mais ça peut être des choses super simples, comme s'engager à prendre plus de transports en commun, à avoir une meilleure gestion de ses déchets, avoir une alimentation peut-être végétarienne, ou diminuer sa consommation de viande, parce qu'on sait qu'en termes d'émissions carbone, c'est très important. Et voilà, tout ça.
Ça sera le mot de la fin, Benjamin. Eh oui, on arrive déjà à la fin de cette émission avec Fala, avec Alisson, et aussi avec le coach Tolé. Eh oui, le coach Tolé.
Monsieur Moustache.
Voilà, Monsieur Moustache, le coach Tolé.
Je connais ou pas Benjamin?
Oui.
Pas vraiment.
Pas vraiment.
C'est cool.
Benjamin. Un grand merci à Benjamin Fontes, on le rappelle, chargé de développement et de France au sein même de cette fameuse association Football Écologie France. Le site internet football-du-milieu-écologie.fr. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM avec Vanessa qui arrive 21h-23h, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.